sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour, c'est Antonin. Je suis dans la classe de CM1 CM2 à l'école Henri Barbus. Ce matin, avec Donovan, Lana et Lola, nous vous parlons des ateliers que nous pratiquons avec l'infirmière scolaire.
L'infirmière s'appelle Émilie Lorenco. Elle vient à l'école pour un projet avec les CM1 et les CM2. Le projet se déroule en trois moments. Nous avons déjà fait la première séance.
En CM1, nous sommes 12 élèves. Le premier atelier s'appelle « Je m'appelle et j'aime ». Nous apprenons à nous exprimer devant les autres. Nous nous présentons pour partager chacun un goût personnel. Nous découvrons les goûts des autres. Nous découvrons les points communs entre nous.
Nous nous avons installés en cercle avec Madame Lorenco qui nous a demandé si on se sentait bien là tout de suite dans l'atelier et aussi si on se sentait bien à l'école. Depuis la rentrée, chacun son tour, un élève va au centre du cercle pour dire ce qu'il aime. Les autres lui posaient des questions pour s'intéresser à ce qu'il faisait. Nous avons appris, par exemple, que Anastasia faisait de la broderie. Certains d'entre nous ne savaient pas de quoi il s'agissait, alors nous lui avons posé des questions. Anastasia a ensuite apporté en classe des tissus brodés pour nous montrer ce qu'elle avait fait.
Je suis un peu timide, mais j'ai réussi à partager avec les autres. J'ai mes choix avec mon ami et faire de la natation. J'ai aimé l'atelier. On apprend à écouter les autres et à les connaître.
Ça ne me pose pas de problème de parler devant les groupes. J'ai dit que j'aimais le foot et d'autres sports. C'est un point commun avec d'autres élèves.
Nous avons déjà fait les ateliers des CM1 l'an dernier. Nous sommes contents de continuer cette année. Notre premier atelier s'appelle l'île déserte. Nous apprenons à faire partie d'un groupe dans une situation problème pour chercher des solutions. Nous apprenons différents modes de décision dans un groupe. Nous apprenons à repérer les avantages et les inconvénients de chacun. Cela nous permet de mieux nous connaître.
Dans un groupe de 3 à 5 élèves, on a une fiche avec beaucoup d'objets. Chacun choisit 5 objets. Ensuite, on a dû se mettre d'accord pour garder 5 objets en tout pour le groupe. C'était difficile. Par exemple, une camarade voulait un couteau. Nous, on pensait qu'on pouvait en tailler dans la pierre. On a décidé de voter, mais elle n'a pas accepté le choix du groupe. Elle a failli pleurer. On lui a dit que la prochaine fois, on prendra en compte sa demande.
Dans mon groupe, je voulais prendre un ballon, mais un camarade refusait. Il disait qu'il fallait ne prendre que des choses utiles. Finalement, on a choisi des médicaments, un couteau, un poste radio, des sous-vêtements et une carte géographique. Notre camarade a réussi à nous persuader. Une autre camarade n'a pas participé au débat. Elle est restée neutre.
J'ai trouvé ça bien car on apprend à se comprendre. Parfois, c'était embêtant de devoir discuter avec quelqu'un qui tient tête et ne cède pas. Ça nous a fait perdre du temps, mais aussi on a dû trouver des arguments et avons eu l'idée de voter.
C'était difficile de convaincre les autres. Je me suis rendu compte que les autres ne pensaient pas comme moi.
Nous attendons maintenant la deuxième séance. Merci à tous et bonne journée. We're gonna praise it.
We're gonna praise it. We're gonna praise it.
Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Bonjour à tous, je m'appelle Tarek et je suis en présence de Lola.
Bonjour Tarek. Cette année, nous lisons les livres de la collection « Lire, c'est partir ». Les élèves de 6e les lisent aussi. Nous nous rencontrons pour échanger notre avis et voter pour notre livre préféré. Parmi les livres, nous avons découvert « La saucisse de l'archiduchesse » de Olivier K., Mon pire yeti super chouette de Christophe Miroucourt, Le chevalier sans beurre et sans brioche de Elsa Devernois, Le roi foudroyé de Gérard Hullet-Richoux, L'île mystérieuse de Jules Verne.
C'est exact. Mais aussi Le dragon déglingué de Jean-Luc Crépeau, Mélusine et les yaourts de la mort de Yann Autré, et nous finissons avec le livre de Tom Sawyer de Mark Twain. Maintenant, je passe la parole aux lecteurs qui vont résumer chaque livre et donner leur avis avant de vous lire. Leur extrait choisi.
J'ai lu les saucisses de l'archiduchesse. C'est l'histoire de Éléonore et ses parents, monsieur et madame Strugasporel. Ils doivent partir tous les trois en randonnée, mais Éléonore fait un caprice. Quand sa maman lui demande de partir, sa mère la menace de lui confisquer la télé. Le passage que j'ai préféré est quand son papa traite Éléonore d'archiduchesse. Écoutez. Et puis il lui a dit de ne pas faire son archiduchesse. Papa sait très bien qu'elle déteste qu'on l'appelle comme ça. C'est en ces termes que les enfants de son école se moquent d'elle. Ils l'appellent l'archiduchesse parce que sa famille est riche, qu'ils vivent dans une grande maison et qu'ils ont des domestiques dans leur bouche. Archiduchesse n'est pas un titre de noblesse, c'est une insulte. Son père l'a insulté, voilà ce qu'il a fait.
Tom Sawyer est un garçon de 10-11 ans, il habite au bord du fleuve du Mississippi à Saint-Pétersbourg en Amérique. Il aime faire l'école buissonnière et jouer avec son ami Huckleberry Finn qui est un vagabond. Tom Sawyer est un orphelin, sa tante Polly l'élève comme son fils avec son demi-frère Sid et sa cousine Marie. Mon moment préféré, c'est quand Tom a témoigné pour défendre Jack Potter et quand il s'est sacrifié pour Becky Thatcher. Je n'ai pas aimé le passage du meurtre du docteur Robinson dans le cimetière. Voici un passage. Non, Huck, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste. Et d'ailleurs, si tu essaies un peu plus longtemps, tu t'y habitueras. M'y habituer, oui, comme je pourrais m'habituer à rester assis sur un poêle rouge et brûlant. Je ne veux pas être riche et je ne veux pas moisir dans une maison. Moi, je n'aime que les bois, la rivière et les tonneaux. Et que le diable emporte ce trésor.
Chaque semaine, Mélusine et ses enfants s'en vont faire les courses au supermarché. Ils doivent traverser la redoutable forêt de Glasmol. Heureusement, ils sont accompagnés par 3 corrigants protecteurs. Ils bravent 1000 dangers en tout genre, mais rien ne les dissuade, et la vaillante famille poursuit cette aventure courageusement. Je trouve que le titre ne m'a pas donné envie de lire le livre. J'ai aimé les personnages du chevalier, il y a des mots rigolos. Je vous lis mon passage préféré. Sauvez-vous, les enfants, le Marcel de Baluchon
Le coiffeur de Glaismol.
C'est quoi un coiffeur ? Demandait Juan.
Quel nom horrible ! Il n'y a qu'un monde qui peut s'appeler comme ça, murmura Fanny.
Anaïs part en classe de neige. Elle se perd avec deux de ses camarades, tombe sur deux empreintes effrayantes et gigantesques. Anaïs va jouer les détectives pour vérifier s'il s'agit de l'abominable homme des neiges. J'ai choisi un extrait. Je bute contre un obstacle et je m'étale de tout mon long en poussant un cri de douleur. Je lâche ma lampe qui tombe à terre et éclaire l'objet qui m'a fait détrébucher des rails. Je n'ai pas le temps de m'étonner. Une silhouette monstrueuse surgit dans le fond de la grotte, précédée d'un mugissement qui me fait froid dans le dos.
Mathilde a une petite sœur qui s'appelle Clara. Elles sont devenues amies avec un dragon formidable, mais tout dégringué. Il crache de l'eau. Il demande aux deux fillettes de l'aider à guérir. Je n'aime pas le passage où elle emmène le dragon chez le vétérinaire. Je préfère le passage avec le lutin frileux. C'est drôle. Écoutez. En bas, ce n'était que vivat. Applaudissements, sifflets de joie, la foule maintenant gros surlé. Vive le dragon déglingué! Vive le dragon déglingué! Le succès enivré dragon fou. Tout cela ne pouvait que finir mal.
J'espère que cette émission vous a donné envie de découvrir un des ouvrages. Merci pour votre écoute, bonne lecture.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour chers auditeurs. Vous ne le savez pas, mais la classe de CM2 à l'école Henri Barbusse va partir en classe de découverte. Je suis Franck, je suis arrivée dans cette école et plus exactement dans cette classe en septembre. Moi non plus, je ne le savais pas. Je ne savais pas que je devais partir sans ma famille avec mes enseignants et mes camarades. Je sais pourtant que je retrouverai des camarades de l'an dernier puisque nous partons avec une classe de l'école Joliot-Curé. Je vais découvrir avec vous ce projet. Gloria, peux-tu nous donner les informations sur ce séjour ?
Bonjour. Le séjour est prévu du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019. Nous allons à Lorenzen, en Alsace, bossu dans le centre de la Grange aux paysages. Nous quitterons l'école le lundi à 8h30 en bus et avec la classe de CM2 de Joliot-Curé, nous arriverons vers 11h. Nos deux enseignants, Madame Berrier et Monsieur David, nous accompagnent. Ils disent que passer quelques jours sans nos parents nous aidera à devenir autonomes et que cela nous prépare pour la rentrée en 6e au collège. Nous les élèves, on est contents de passer quelques jours avec nos copains. Nous serons 4 dans chaque chambre. Et puis, nous allons faire beaucoup d'activités, n'est-ce pas Emma ?
Merci Gloria, bonjour à tous. Le programme des activités est bien rempli. Tous les matins, nous ferons du théâtre avec un intervenant. Chaque après-midi, nous découvrirons l'environnement avec une sortie lecture de paysage en haut d'une colline, une course d'orientation, une observation de traces et empreintes des animaux. L'an dernier, ils ont vu un renard. Une observation des oiseaux. Il ne faut pas oublier tous les rituels qui se succèdent tout au long de la journée. Ça, c'est Lilio qui va vous expliquer.
Merci Emma et bonjour à tous. Dès le matin, après le petit déjeuner, on se prépare et on range la chambre avant de partir en activité théâtre. Ensuite, vers 12h15, on prend le déjeuner et à 13h et de 13h à 14h, il y a un temps libre ou calme, selon son humeur. Vers 17h, après la seconde activité, on goûte avec du jus de pomme du verger. Puis pendant que certaines prennent leur douche, les autres rédigent une lettre et résumé de la journée. Envoient un mail après le dîner. Il y a une veillée spéciale. Tarte flambée. Chacune prépare sa tarte et la cuit dans le four. Sur la terrasse, miam. Et s'il fait beau ou s'il ne pleut pas, les animateurs font un grand feu et on chante. La semaine passe vite. Il faut refaire les valises. Le départ va bientôt arriver. Qu'en pensez-vous, les élèves, Franck ?
Bonjour, nous le leur avons demandé. Emma les interroge.
Est-ce la première fois que vous quittez votre famille pour plusieurs jours ?
Oui, ça fait bizarre. On se réveille sans nos parents. On devra se débrouiller seul. Ça va nous apprendre à être autonome. Je suis un peu triste.
Je suis partie une semaine avec le club d'escalade. Ça fait un peu peur au début et on s'habitue. Que ressentez-vous à l'idée de quitter votre famille ?
J'ai un peu peur. Toutes nos habitudes seront changées. Mes parents vont me manquer.
Que ressentez-vous à l'idée de quitter, de partager du temps avec vos copains ?
Je suis contente, je les verrai tout le temps et je partagerai tous les moments de la journée avec eux.
Il va falloir aussi prendre se supporter et gérer les conflits autrement.
Quel est l'objet que vous allez mettre en premier dans votre valise ?
J'aimerais bien mettre ma console, mais je ne peux pas. Mes livres ?
J'aimerais bien prendre mon chat, mais je ne peux pas, alors je prends mes doudous.
Quel point négatif à ce départ ?
Il va y avoir un long trajet de bus.
Je n'ai pas très envie de partir. J'ai envie de rester avec ma famille.
Quel point positif à ce départ ?
On va découvrir nos amis autrement. Peut-être on se trouvera des points communs avec des camarades qu'on ne connaissait pas trop.
On va découvrir une nouvelle région.
On va réussir à se débrouiller tout seul.
Nous nous tournons maintenant vers leur enseignante, Madame Berrier. Pourquoi avez-vous choisi ce lieu ?
Alors, j'ai choisi le lieu de la Grange aux paysages à Lorenson parce que ça fait déjà plusieurs années que j'y vais avec les classes précédentes. Et au départ, parce que c'est la même directrice que le centre de Claire Sapin dans lequel j'allais avant avec les classes. Et que c'est une personne de confiance et avec laquelle j'apprécie de travailler.
Êtes-vous contente de partir avec nous ?
Bien sûr, je suis contente de partir avec vous parce que on va vivre des moments qu'on ne vit pas à l'école et qu'on va pouvoir apprendre à se connaître. Et je vais vous découvrir autrement. Et puis vous aussi, vous allez me découvrir autrement dans d'autres moments et dans d'autres activités. Je passe la parole à Monsieur David qui va donner son avis.
Eh bien, je suis également très content de partir avec vous parce que, comme le disait Madame Berrier, c'est des moments très divers, très particuliers où on se découvre autrement, qui sont rares dans l'année. On passe des dizaines d'heures, si ce n'est des centaines d'heures, à faire de la grammaire, à faire des maths et tout. Et là, on se souvient rarement du contenu précis de nos cours de grammaire ou des séances qu'on fait en classe. Par contre, on se souvient des fois, même 10 ans après, de moments comme ça, sur le plan humain, sur les découvertes, où on découvre plein de choses, où on va vivre, j'espère, des moments intéressants. Donc c'est un grand plaisir.
Qu'attendez-vous de ce projet ?
Eh bien, un petit peu ce que je viens de dire, que des plein de bons souvenirs, qu'on se découvre autrement. Sur le plan pédagogique, il y a des découvertes, des choses dont on va se souvenir sur le plan environnemental, sur le plan biologique, des choses qu'on va observer, des images qu'on va avoir en tête et tout, et qui peuvent amener à réfléchir sur la nature, sur les sciences, sur plein de choses. Et sur le plan humain, des moments, des jeux peut-être qu'on fera, des échanges verbaux, se découvrir les uns les autres, passer des bons moments et se construire des bons souvenirs. Je vais passer la parole à Mme Berrier qui attend peut-être aussi des choses de ce projet qu'elle a initié.
Alors moi j'attends que ce projet vous permette de vous aider à grandir, voilà, apprendre à se séparer de vos parents, de vos familles, voilà, à vous débrouiller seul. Et puis découvrir une autre région et vous découvrir entre vous. Voilà, c'est apprendre à l'autonomie et à grandir. C'est essentiellement ce qui anime ce projet, plus les contenus que M. David a déjà cités sur découvrir une nouvelle région, apprendre à se repérer en faisant des courses d'orientation dans un environnement qu'on ne connaît pas. Voilà.
Êtes-vous triste de quitter votre famille ?
Ben oui, moi aussi je suis triste de quitter mon mari et de quitter mes enfants, voilà. Mais en même temps, eh ben, c'est aussi une expérience pour moi et pour eux, parce que je sais que ben on est toujours triste quand on quitte les gens, même si c'est pour faire des projets intéressants. Et après, je sais aussi qu'on est toujours content de retrouver les gens, parce que on apporte quelque chose et qu'on a à partager avec eux au retour. Voilà, donc c'est ce que vous allez vivre aussi.
Madame Berrier m'a piqué mes idées, oui, parce qu'effectivement, j'allais dire que sur le moment où on part, on est un petit peu triste, mais après, ça permet d'avoir des choses à raconter, des choses à se dire, à s'apporter, des souvenirs, et puis c'est bien, on est content dès lors de se retrouver. Quand on est triste de se quitter, on est content de se retrouver, donc un petit peu triste, mais ça va en plus, il y a 52 semaines dans l'année, donc ce n'est qu'une semaine, donc ça va quand même globalement.
Merci à tous pour vos réponses et merci à la mairie de Mécourt sans qui ce projet n'aurait pas lieu. Au revoir et à bientôt sur Radio Franca.
Let's go!
Radio Franca.
Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à tous, c'est Yasmine de la classe de CM1-CM2. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la musique, du cinéma. Nous avons la chance à Omécourt de profiter de la salle Pablo Picasso pour assister à 3 représentations chaque année.
Nous avons assisté vendredi 12 octobre 2018 au spectacle Chromatique. Jules Ficky a créé la chorégraphie avec 2 hommes et une femme.
Lundi 28 janvier, nous irons voir Crocodile, un spectacle de la compagnie Barbès. C'est une adaptation du récit « Dans la mer, il y a des crocodiles » de Fabio Geda. C'est l'histoire vraie de Enéo Tola Akbari qui s'est enfui d'Afghanistan, abandonné par sa mère au Pakistan pour trouver asile à Turin.
Nous avons étudié un texte théâtral en classe. Il s'agit de Mascarade de Nancy et de Sacha Houston. Une chèvre traquée par le loup laissait apparaître très vite son vrai visage, celui du chasseur. Tour à tour, les masques tombent et les personnages se font face à face. Une vraie mascarade. Avec Cléa dans le rôle de la chèvre, je tiens le rôle du loup pour vous lire un extrait. Oh rage, que vois-je, rêve-je ? Une chèvre, dirait-on, a abordé sur mes rivages, pénétré dans mon bocage, traversé mon marécage. Est-ce que un mirage ? Où vais-je ? D'où viens-je ? Que sois-je ?
Vous êtes perdu ?
Vous ne vous rendez pas compte, c'est vous qui êtes perdu.
Mais je sais parfaitement où je suis.
Peut-être, mais ce que vous ne savez pas, c'est qui je suis.
Qui suivez-vous ?
Non, pas qui je suis, qui je suis.
Qui essuyez-vous ?
Non, pas qui je suis, qui je suis.
Ah, soyez vous-même, voyons.
Je n'ai pas envie de m'asseoir, asseyez-vous vous-même.
Moi, je m'assois jamais, je gambade, pardon, c'est dans ma nature. N'y voyons rien de personnel, gambadi, gambada, gambadon, de ci, de là.
Elle me saoule, je suis le loup.
Mais c'est affreux, j'en suis toute ébobie.
Mais non, tu n'es pas une brebis, tu es une chèvre, je dirais même une chèvre qui a l'air délicieuse.
Ah non, sûrement pas, j'ai mangé beaucoup d'ail tout à l'heure. Elle ne vous plairait pas du tout, ma chère.
Mon cher.
Oui, c'est ça, ma chère, mon cher, risque fort de vous déplaire.
Bof, elle ne me coûtera pas cher.
Certaine, mais vous ne ferez pas bonne chère. Prenez plutôt mon petit frère.
Toujours pour le théâtre, avec l'aide de la comédienne Christine Barbeau, nous allons interpréter la pièce de Jean-Claude Grumberg, Pinocchio et Barbie. À la demande du président et sur les conseils de Maman Chérie, Petite Puce envoie ses jouets préférés, Pinocchio et Barbie, là où les enfants n'ont rien, à l'autre bout du monde. Nous nous produirons sur la scène du centre culturel à la fin de l'année scolaire.
Dans le domaine de la musique, cette semaine nous avons rencontré Dominique Dimé, qui est venue lundi dans notre classe. Elle nous a présenté son concert. Nous y avons assisté mardi matin. Vous pouvez retrouver l'interview à la fin de l'émission. C'était super de connaître déjà des chansons avant d'y aller. Nous avons adoré. N'est-ce pas, Anastasia ?
Pendant le concert, Dominique Dimé faisait chanter le public. Elle a même appelé des élèves sur scène. Et j'y suis allée. Tous les élèves de CM1 vont participer à un projet artistique pour préparer un concert qui aura lieu en public le 20 ou le 21 juin.
Parlons cinéma. La classe est allée au cinéma Casino à Jeuf pendant le festival Rétine et Lumière pour voir le film Reine d'un été. L'histoire se déroule en Allemagne,
Une fille, Léa, ne s'intéresse pas encore aux mêmes choses que les collégiennes de son âge. Elle rencontre une bande de garçons qui construisent des radeaux et des cabanes. Pour se faire accepter, elle doit surmonter des épreuves parfois terribles et dangereuses. Ce film parle de la différence. Léa découvre que le pompier du village est homosexuel. Elle fréquente un musicien qui prend des bains dans son jardin. Quel est ton personnage préféré, Anastasia ?
Je trouve que Léa est courageuse, parfois trop, quand elle va se coucher entre les rails. Et toi, Yasmine ?
J'ai beaucoup aimé Robert, un garçon de la bande. C'est le seul à avoir soutenu Léa. Léa a pu se confier à lui. D'après toi, quelle est la morale de l'histoire ?
La morale de l'histoire, c'est d'accepter les gens comme ils sont. Le pompier a le droit d'aimer un homme. Léa peut trouver sa place avec les garçons.
Je pense que nous pouvons clore cette émission culturelle. Merci pour votre écoute. À bientôt.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de chanter ?
Alors d'abord, bonjour les enfants. Je suis très heureuse de répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter ? D'abord, il faut dire que j'ai un papa qui est poète, qui était poète et qui a écrit beaucoup de chansons. Des chansons que vos parents doivent connaître, comme la chanson « Syracuse ». Voilà, donc déjà, j'étais un petit peu, on va dire, familiarisée avec ce qu'était la chanson. Mais c'est surtout quand j'étais petite, moi j'adorais écouter de la musique et j'adorais chanter. Et c'était vraiment ma façon de m'exprimer. Et je le faisais même quand j'avais 5-6 ans, je chantais des chansons. C'était mon truc à moi, mon jeu à moi, ma façon de m'exprimer, d'être dans mon univers. Donc très tôt, tu vois, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de chanter. J'avais cet amour de la chanson. Et puis après, quand j'ai été plus grande, je me suis rendu compte que c'était vraiment... avec une chanson, on peut tout dire. On peut passer plein de messages. Donc j'ai choisi de faire des chansons.
À quel âge avez-vous commencé à chanter ?
Justement, on va dire, j'ai commencé à chanter devant un public, vers 20 ans. Voilà, je faisais mes chansons, j'allais chanter dans des choses particulières, dans des endroits qui m'accueillaient. Donc oui, on va dire vers 20 ans.
Quand avez-vous commencé à en faire votre métier ?
J'ai commencé à en faire mon métier. J'ai chanté des chansons pour adultes. Et donc oui, pareil, à partir de 20 ans, j'ai commencé à en faire mon métier. J'ai joué au théâtre et puis j'avais tellement envie de chanter que j'alternais entre le théâtre et la chanson. Mais j'ai commencé à en faire mon métier dans ces années-là. Non, parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Écrire des chansons, concevoir des spectacles, écrire des livres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Faire les ateliers, les projets comme je vais faire avec vous. Ça me remplit tout mon temps. Donc, et puis je sais faire que ça. Donc je fais que ça.
Combien d'albums avez-vous enregistrés ?
Je suis un peu fâchée avec les chiffres, mais je dirais une quinzaine d'albums. Oui, ça m'est arrivé pour les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant. J'avais fait un très gros concert, deux très grands concerts au Cirque d'hiver à Paris, qui est un endroit magique. C'est un cirque, vous savez, donc c'est tout en rond avec une piste. Et là, j'avais plein d'enfants qui chantaient avec moi sur scène et puis dans la salle. Et j'avais fait venir un monsieur qui malheureusement n'est plus de ce monde, un artiste que vous connaissez pas parce que vous êtes trop jeune, mais qui était un très très grand artiste, qui s'appelle Jacques Higelin. Et il avait chanté mes chansons avec moi. Et c'était pour moi un grand honneur.
Il était dans
la vidéo. Oui.
Avez-vous le trac avant de chanter ? Si oui, comment faites-vous ?
J'ai forcément le trac. Alors si on parle du cirque d'hiver, je peux te dire que quand je suis rentrée sur scène au cirque d'hiver, je savais plus où j'étais. J'avais l'impression d'être au-dessus de la terre, tellement j'avais à la fois, j'étais heureuse et à la fois j'avais peur. Donc si tu veux, on a tous nos petites techniques, tous les artistes, comédiens ou chanteurs, on a tous une façon de... En fait, c'est par la respiration qu'on arrive à contrôler son trac. Et moi, avant de rentrer sur scène, j'essaye de bien respirer. Mais des fois, tu peux avoir un truc qui te panique. Bon, sur la première chanson. Mais vous verrez, quand vous allez rentrer, enfin ceux qui vont faire le spectacle avec moi, quand vous allez rentrer sur scène, on a un moment de... quand on voit la lumière, quand on voit les gens, et puis après, on est dans le spectacle, donc ça va mieux.
Chantez-vous aussi pour les adultes ?
Donc, au début, oui. Et puis même, je peux te dire, parce que c'est un de mes projets, donc je réponds sûrement à une question que vous allez me poser après. Là, je prépare un spectacle pour le Festival d'Avignon, qui est un spectacle de chansons et de théâtre, sur justement l'œuvre de mon papa, qui s'appelle Bernard Dimet. Et donc, ce n'est que pour les adultes. Donc, je vais chanter, oui, effectivement, et préparer un spectacle pour adultes.
Comment vous est venue l'idée de créer le spectacle Tout va très bien, Madame la Marquise.
Tout simplement parce que, comme vous tous, comme nous tous, j'espère, je me dis que j'en ai assez de voir la planète qui va mal, que je ne vais pas rester les bras croisés à me dire oui, les espèces disparaissent, ah oui, on coupe les forêts, ah oui, on est malade parce que il y a de la pollution, ah oui, parce qu'il y a les pesticides, ah oui, la vie, la planète, elle est belle. Il y a encore plein de belles choses, j'ai envie de les préserver. Et je me suis dit, moi, mon rôle d'artiste, c'est d'aller chanter des chansons vers les enfants sur la protection de la planète. Donc, et puis un jour, c'est ça, je me suis dit, avant La Banquise, j'ai déjà fait 2 albums sur la planète. Et là, on va dire, ce qui était un petit peu différent, c'est que la notion de recyclage était importante. Et je me suis dit, il faut vraiment recycler des chansons qui sont anciennes, que tous les enfants doivent connaître, on va dire, qui sont le patrimoine français. Et voilà, et ce projet, il est né comme ça. Et puis j'avais surtout cette chanson de « Tout va très bien, Madame la Marquise », qui était quand même une chanson, c'était évident qu'il fallait que je la recycle en banquise. Et que ça soit la banquise qui vienne dire aux hommes « Mais les hommes, je vais pas bien, je suis en train de fondre, j'ai mes animaux qui savent plus quoi faire, ils peuvent plus manger. » Et les hommes qui lui disent « Tout va très bien, Madame la banquise ». Je trouvais que c'était une évidence, qu'on pouvait...
Vous avez dit qu'on a appris celle-là en chorale de chansons.
La Marquise, oui. J'ai vu dans l'autre classe, il y a eu une confusion d'ailleurs. Ils savaient plus ce qu'on allait chanter. Nous, on chante La Banquise.
Voilà. Mais on a appris. Et ce qui était intéressant quand on a abordé cette chanson-là, c'est que moi, je leur ai demandé tous les titres de chants traditionnels, parce qu'on a expliqué un peu la démarche. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils connaissaient plein de chants traditionnels et qu'en fait c'était une des rares choses qu'ils avaient en commun et que quand un élève répondait, tous les autres connaissaient et spontanément comme ça ils avaient envie de la fredonner.
Exactement.
Ils ont bien illustré le...
Et le concept, parce que moi c'était aussi une façon, que ça soit pour les enfants comme pour les enseignants, il y a au moins une chose en commun qui est de connaître la mélodie.
Et avec leurs parents.
Voilà.
Ils se sont rendus compte quand ils sont rentrés qu'ils nous ont demandé de chercher d'autres chansons traditionnelles. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient ça en commun avec leurs parents. Mm-hmm. C'était riche.
Oui, oui. Et ça a été aussi pour moi un argument, parce que très souvent, quand je fais mes projets avec mes propres chansons, tout va bien. Mais là, j'apportais quelque chose de plus simple, parce que déjà, toutes les bases musicales étaient connues. Et que quand on chante « Dans la forêt lointaine », tout le monde la connaît. Sauf on ne connaît pas la nouvelle version que j'ai écrite. Et c'est ça qui est aussi intéressant. D'autres questions ?
Pourquoi avez-vous choisi d'adapter des chansons du répertoire traditionnel ?
On vient d'y répondre, parce que c'est une façon de redonner vie. C'est le système du recyclage. C'est prendre des chansons qui existent, qui racontent pas grand-chose, si on est honnête, parce que, par exemple, la chanson du coucou, ça dit que le coucou, il répond au hibou, et puis c'est tout. Bon, et moi, je me suis dit, c'est un peu dommage. On peut dire plein de choses sur la forêt. Donc, je me suis dit, on va prendre toutes ces chansons que tout le monde connaît et on va leur redonner vie et on va permettre de dire des choses intéressantes et importantes avec ces chansons qui seront recyclées.
Anastasia, tu peux passer à la 12 directement parce qu'on a déjà répondu.
Comment êtes-vous accompagné en musique sur scène? Avec quel instrument et instrumentiste?
Alors déjà, je vais dire que moi, j'ai choisi, et c'est un luxe et c'est une exigence, j'ai choisi d'être toujours accompagnée avec des vrais instruments. Tu as des chanteurs qui, des fois, sont accompagnés sur une bande son, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la musique vivante. Moi, la musique vivante, elle est extrêmement importante. Les musiciens qui sont avec moi, je leur fais une grande place. Et c'est très important. En plus, c'est toujours des gens qui jouent très bien. Et j'aime avoir les instruments qui sonnent près de moi. Donc là, pour la banquise, on a un accordéon, une contrebasse et une guitare.
Qui écrit les paroles ?
Moi.
Qui adapte la musique ?
Alors, c'est à chaque fois... Enfin, l'adaptation, les arrangements, on va dire. Les arrangements, c'est aussi... C'est le guitariste qui s'appelle Pierre Bluteau, avec qui je travaille depuis très longtemps, et c'est toujours lui qui fait les adaptations.
Qui choisit les costumes ?
Alors ça, c'est le metteur en scène. Là, par exemple, vous verrez le spectacle que vous allez voir demain, les costumes du début. Enfin, oui, c'est le metteur en scène. Alors des fois, moi, je suis un petit peu infernale, ou je veux quelque chose d'autre. Mais pour ce qui est de demain, c'est le metteur en scène.
Comment choisissez-vous le titre du spectacle ?
Alors, c'est une bonne question. En général, c'est toujours un problème. Mais pour faire simple, j'essaye de prendre le titre d'une des chansons. Là, c'était évident que tout va très bien, Madame la banquise. C'était quand j'ai trouvé quand j'ai recyclé cette chanson, je savais que j'allais mettre le titre du spectacle. C'est trop fort. Quand tu dis « Tout va très bien, Madame la banquise », tu comprends de quoi parle le spectacle. Il y a tout. Donc souvent, dans les autres spectacles, c'est des fois moins évident. Des fois, c'est plus compliqué.
Chantez-vous avec d'autres artistes ?
On l'a déjà dit. Vas-y, trouve une autre question.
La suivante.
Faites-vous des concerts à l'étranger ? Dans quel pays êtes-vous allé ?
Alors oui, c'est vrai que depuis... Pour moi, j'essaye d'aller partout. Alors, bien sûr, en France, mais je me sens citoyenne de la Terre et j'ai envie d'aller partout parce que chanter, tous les gens sur Terre, ils chantent. De façon différente, mais ils chantent. Donc, je vais partout où je peux aller. Donc, je suis allée dans beaucoup de pays. Que ce soit du Liban au Canada, à la Roumanie, à l'Algérie, à la Tunisie, au Kazakhstan, voilà, plein de pays. Et encore plein d'endroits où je voudrais aller. Parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, là, en ce moment, j'ai très envie d'aller dans un pays, c'est très loin, qui est en Amérique centrale, qui travaille, qui fait beaucoup de choses, qui est assez exemplaire, ce pays, par rapport à l'environnement. Ce pays s'appelle le Costa Rica. Et j'ai très envie d'aller faire un projet avec les enfants là-bas. Après, faut trouver les moyens et savoir qui va me faire venir. Donc, on verra.
Dans quelle langue chantez-vous à l'étranger ?
Dans les pays où je vais à l'étranger, je vais forcément vers des enfants qui apprennent un petit peu le français, même s'ils ne le parlent pas beaucoup. Et ils en ont l'envie de découvrir notre langue, qui est une très belle langue, qui est la cinquième langue qu'on apprend sur la planète. Donc elle n'est pas la première, pas la deuxième, elle est la cinquième. Donc les enfants, quand je vais dans un pays, on traduit, il y a un interprète qui traduit tout ce que je raconte. Et puis dans le spectacle, eh bien, on va mettre, les chansons vont être en français, mais certaines vont être dans la langue du pays. Des fois, c'est juste un refrain qui va être dans la langue du pays. Donc, ça permet d'avoir les deux langues, le français et celle du pays. Mais moi, je suis traduite par un interprète.
Parmi vos chansons, laquelle vous préférez ?
Préférez-vous ? On me pose souvent cette question et je dis, en vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est toujours celle que je suis en train d'écrire, que je préfère, parce qu'elle est encore pas née. Ce qui est vrai. Mais, comment dire, il y a des chansons qui me bouleversent plus parce qu'elles parlent de choses très bouleversantes. J'ai une chanson sur la maltraitance qui est bouleversante parce qu'elle a, elle a donné lieu à des moments très, très émouvants avec les enfants. Donc celle-ci, j'y tiens beaucoup. Mais par exemple, « Touche pas ma planète », je suis tellement heureuse de l'entendre chanter partout que je vais dire « J'adore, touche pas ma planète ». Mais j'adore aussi « C'est le droit des enfants ». Donc c'est plutôt le vécu des chansons, ce que j'ai vécu avec, qui fait que je n'ai pas une préférence, je ne veux pas dire « J'aime celle-ci ». Je l'aime aussi, dès que les enfants la chantent, je la redécouvre, donc je l'aime différemment.
Quels sont vos projets futurs ?
Eh bien, mes projets futurs, il y en a plusieurs, il y en a deux. Donc, il y a ce spectacle adulte sur l'œuvre de mon papa, que je suis en train de travailler, que je vais jouer à Avignon, au Festival d'Avignon en juillet. Et puis, l'autre projet, qui est énorme et que c'est terrible parce que je suis en retard sur l'écriture, j'écris, pour les 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, j'écris un nouveau, des nouvelles chansons sur les droits de l'enfant pour créer en novembre. Et que, il faut que je me dépêche, mais que tu n'écris pas une chanson aussi vite. Voilà. Mais c'est en cours et c'est le projet pour novembre 2019 et où je vais parler de choses. Je vais parler des filles, des droits des garçons et des filles, des petites filles qui sont mariées de force dans leur pays, comme le Pakistan. Je vais encore parler du droit à l'éducation. Je vais parler des écrans et des dégâts qu'ils font chez les enfants partout. Je vais parler d'une petite fille qui fait tout le voyage avec son papa du Guatemala jusqu'à la frontière au Mexique, où elle va se retrouver devant le futur mur que construit le fou de président américain. Je vais écrire aussi une histoire sur une petite fille syrienne ou un petit garçon qui est arrivé dans notre pays après avoir vécu des mois et des mois dans les caves de sa maison, enfin de son immeuble. Mais chaque fois, pour avoir des témoignages et pour se dire, faut que ça change, faut qu'on respecte les enfants. Ah, je vous ai dit des sacrés secrets, hein, parce que.
Est-ce facile d'être artiste ?
Je sais pas le mot facile. Je sais pas ce que ça veut dire. Rien n'est facile. Être enseignant, c'est pas facile. Être boulanger, c'est pas facile. Être cultivateur, c'est pas facile. À partir du moment où on est passionné, on y va. Alors moi, je suis passionnée par ce métier. Je suis pas forcément aidée, et c'est pas forcément facile. Mais j'adore ça et il faut beaucoup travailler, beaucoup y croire et avoir l'envie de partager. Et moi, quand je suis avec vous, bah ouais, c'est facile parce que c'est du bonheur et que je suis avec des enfants qui sont passionnants, qui ont envie de découvrir ce que je fais. Donc c'est passionnant. C'était la dernière question ? Ah, moi, je vais poser une question, hein. Il n'y a pas que vous. Je pose une question aux enfants de l'école. Comment ça s'appelle ? Henri Barbus de Homécourt. Est-ce que c'est passionnant de discuter et de se glisser dans un projet autour de l'environnement ?
Oui.
Et qu'est-ce que vous en attendez ?
Que la planète, elle va bien.
Que après, la planète aille mieux. On est d'accord. Et que après, vous soyez des vrais ambassadeurs de la planète. Et ça vous fait envie. Vous êtes heureux de cette rencontre déjà.
Oui.
Et vous êtes prêts à vous battre pour la planète.
Oui.
Et vous allez trouver plein d'idées pour ça.
Oui.
Bon, alors je suis rassurée. Merci beaucoup.
Merci.
Merci les enfants et à bientôt. Et je vous retrouve demain à Homécourt pour le spectacle dans la salle de Pablo Picasso.
Oui.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, à demain.
Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Bonjour à tous. La classe de CM1 CM2 est engagée dans le projet du Parlement des enfants. Nous avons reçu la documentation nécessaire pour rédiger une proposition de loi comprenant au maximum 4 articles. Le thème en 2019 est du bon usage du numérique. L'éducation aux médias et à l'information doit permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication. Il s'agit de former les cyber-citoyens actifs, éclairés et responsables de demain. Les travaux sont transmis début mars au rectorat qui les soumettent à des jurys académiques qui sélectionnent une proposition de loi par académie. Un peu d'histoire. Lucas, peux-tu nous faire un petit rappel ?
Bonjour. Le 17 juin 1789, les députés du tiers état, considérant qu'ils sont assez nombreux pour représenter la nation, se proclamant Assemblée nationale. La noblesse, la clergé et le tiers état sont abolis. C'est le début de la Révolution française. Le 26 août 1789, l'Assemblée nationale constituante adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans laquelle sont reconnus les droits de tous individus, quelle que soit sa naissance.
Voici mes Lucie, pouvez-vous nous préciser le rôle de chacun à l'Assemblée nationale ?
Bonjour.
Bonjour.
Le président dirige les séances de l'Assemblée depuis son bureau, le perchoir. Il veille au bon déroulement des débats en faisant respecter la répartition du temps de parole ou les modalités de vote.
L'orateur est un député ou un ministre qui fait un discours devant l'Assemblée dans le cadre d'un débat. Il ne doit pas dépasser un temps de parole précis.
Les 577 députés disposent tous d'une place précise dans l'hémicycle. Ils sont répartis en fonction de leur groupe politique.
Les députés d'opposition de droite sont à la droite du président. Les députés de la majorité au centre, les députés d'opposition de gauche à la gauche du président.
Toutes les séances de l'Assemblée sont publiques, on peut y assister dans les tribunes ou en direct sur Internet.
Les ministres font partie du gouvernement. Les mardis et les mercredis après-midi, ils répondent aux questions des députés.
Les rédacteurs rédigent le compte rendu intégral des débats.
Les huissiers veillent au respect des règles d'accès et de circulation dans la salle.
Les fonctionnaires préparent le dossier du président et les conseillent pour le bon déroulement de la séance.
Les journalistes se trouvent dans la tribune au-dessus du public.
Devant tous les députés se trouve un petit boîtier électronique qui leur sert pour voter pour, contre ou abstention.
Dina, combien y a-t-il de députés en France ?
Bonjour, les députés sont élus à l'Assemblée pour 5 ans, tous les citoyens français de plus de 18 ans. Ils siègent au Palais Bourbon dans la salle des séances en forme d'hémicycle. Chacun des 577 députés est élu dans une circonscription, c'est-à-dire une partie de territoire dans laquelle vivent les électeurs d'un député, tout en gardant un lien étroit avec les habitants de leur circonscription. Les députés votent les lois selon l'intérêt de tous les Français. Les députés peuvent être membres d'un groupe politique constitué d'au moins 15 membres. Grâce au débat entre majorité et opposition, les débats font vivre la démocratie.
Milan, peux-tu nous raconter les parcours d'une loi ?
Bonjour. Le texte est déposé à l'Assemblée nationale par un député ou par le gouvernement. Après avoir été discuté et modifié par l'une des commissions, le texte est débattu puis adopté en séance publique. Le texte effectue des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. Qui tente d'adopter un texte identique, c'est la navette. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Le président de la République promulgue la loi et elle devient obligatoire. Par ailleurs, nous participons au projet Prouve-le. Ce projet nous entraîne à vérifier des publications afin de repérer les fake news. Nous devons vérifier les informations qui sont affirmées à associer une photographie pour prouver que, dans ce sens, que nous réfléchissons à un projet, pour prouver que cette information est vraie ou fausse. L'esprit critique est indispensable. C'est dans ce sens que nous réfléchissons à un projet de loi. Dans un premier temps, nous avons interviewé Madame Pieretti, journaliste au Républicain Lorrain. Elle nous a expliqué son travail, comment elle traitait les informations. Je vous invite à réécouter cette interview sur le site Radio On Air.
Nous allons maintenant tester vos connaissances et poser 3 questions. Nous utilisons les questions du jeu Place de la Loi. Maïssa, je vous laisse la parole.
Bonjour, peut-on télécharger de la musique, une série ou un film diffusé sur Internet ?
Oui, à condition de payer l'usage temporaire ou la propriété du fichier numérique. Mais encore faut-il que la personne qui propose le téléchargement ne possède pas les droits sur la musique. Comme pour tout produit que l'on souhaite consommer, il faut payer le prix. Il faut bien rémunérer le créateur. Une personne qui télécharge sans autorisation commet un délit de contrefaçon. Elle risque une peine de 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Un enfant comme un adulte peut ouvrir librement un compte sur Facebook.
Un enfant de 13 ans peut ouvrir un compte Facebook. Facebook s'adresse aux internautes âgés de 13 ans et plus. Ce limite ne résulte pas de la loi, mais une pratique commune adoptée par les réseaux sociaux qui font la police sur leur site. Conscients de leurs responsabilités et des peines encourues, 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ils diffusent des informations ou images pouvant porter gravement atteinte à la dignité humaine ou inciter les mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger. Article 227-24 du Code pénal. Les diffuseurs tentent de prévenir ces fautes et de se protéger eux-mêmes. On craint notamment qu'un enfant ne s'expose au regard des autres et fasse ensuite l'objet de sollicitations ou de chantage sur les photos ou propos placés sur Facebook.
Une personne peut-elle diffuser une vidéo qu'elle a faite d'une agression à laquelle elle a assisté ?
Non, cette pratique appelée happy slapping est formellement interdite et punie. On doit déjà demander des comptes à celui qui a filmé une agression sans avoir un geste pour le faire cesser, car il y a eu non-assistance à la personne en péril. On peut même y voir un geste de complicité. La diffusion d'un tel film, et plus encore, s'il s'est agi d'une agression à connotation sexuelle, vise à humilier ce qui est insupportable pour la victime. Elle doit donc être sévèrement punie. Désormais, le fait de filmer vaut d'être considéré comme un complice de l'auteur de l'agression et expose l'auteur de la vidéo aux mêmes peines que lui. Quant au fait de diffuser l'enregistrement de telles images et irriguer aux infractions autonomes, il est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Connaître notre proposition de loi. Au revoir.